Oh oui, Père, merci parce que nous pouvons encore écouter ta parole dans un pays libre. Et Seigneur, nous voulons pas simplement l'écouter, mais la recevoir aussi dans nos cœurs. Et Seigneur, dirige que je puisse la transmettre fidèlement selon toi et que ce soit toi qui sois vu et que nous apprenions de toi. Nous voulons te prier aussi pour que les enfants reçoivent ta parole et que tu aides les moniteurs et les monitrices à annoncer ta parole avec fidélité. T'en prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous continuons dans les évangiles. Alors, c'est vrai que la dernière fois, nous avons vu ensemble la transfiguration. Quand Jésus est monté sur la montagne avec trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et où Jésus a été transfiguré. Nous avons parlé de la gloire de Jésus-Christ, mais nous avons aussi parlé que Dieu a parlé du haut des cieux. Il a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et c'est vrai que Pierre voulait rester là-haut, c'était tellement bien. Mais ils sont redescendus, et en redescendant, ils ont été face à la réalité des choses. Des fois, on aime bien rester sur les montagnes en disant c'est bien, on est loin de tout tracas. Mais c'est vrai que quand ils sont descendus, il y avait un homme possédé qui était là, où il y avait eu échec d'ailleurs. C'est une leçon aussi. Bien souvent, c'est vrai qu'on dit, oh, mais c'est tellement mieux quand nous sommes sur la montagne, là où on peut voir les bénédictions de Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu est aussi le Dieu de nos vallées, le Dieu de nos plaines, nos vallées. Et j'aime bien ce verset aussi du psaume 23 que nous connaissons. Je ne crains quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, vous voyez, même si c'est le Dieu est le même, aussi bien sur la montagne que dans nos vallées. Donc, c'est une petite leçon. Donc, nous allons lire le passage qui suit. Donc, on va le lire dans l'évangile de Marc. C'est vrai que nous le retrouvons dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Mais là, nous allons le lire dans l'évangile de Marc au chapitre 9, à partir du verset 14. Marc 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur répondit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Donc, Jésus descend de la montagne. Mais entre-temps, il y a eu un père qui a amené son jeune homme, maintenant son fils, hein, son fils unique, un fils unique qui était lunatique, qui était possédé d'un mauvais esprit, muet, sourd, qui le faisait parfois écumer, le rendre raide, et même des fois aussi cet enfant jeté dans le feu ou dans l'eau, dans le seul but de le faire périr. Ça, on pourrait dire, c'est l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan, c'est en fin de compte de vouloir détruire. On sait que c'est le père du mensonge, on sait qu'il est le meurtrier dès le commencement, et on sait que Satan, le but de Satan, c'est de tromper l'homme. C'est de faire que l'homme soit aveugle. Il le trompe par même de faux miracles. Il le trompe avec des fausses promesses, comme on le voit avec Ève. C'est aussi celui qui peut envoyer des maladies. On voit avec Job. On voit aussi que il veut faire périr. Et c'est vrai que on voit aussi, on avait vu ensemble, vous rappelez cet homme à Gadara, où personne n'arrivait à le calmer, on l'enchaînait, on essayait de faire que on puisse le maîtriser, mais avec une force extraordinaire, il cassait les chaînes, et il se meurtrissait avec des pierres, il se faisait mal. Et ça, c'est Satan. Il veut détruire, il veut faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Il veut empêcher l'homme de se tourner vers Dieu. Il va tenter l'homme, il va le pousser à pécher, il va tout faire pour que l'homme reste dans la mort. Et là, on voit pareil, qu'il y a aussi cette femme qui, depuis 18 ans, a été courbée, et un mauvais esprit qui la tenait courbée. Donc on voit, Satan veut détruire, Satan veut, on pourrait dire, anéantir. Et donc, cet homme, peut-être qu'il avait entendu parler de Jésus, qui avait chassé des démons, qui avait guéri des personnes, eh ben, il va vers les disciples en croyant voir Jésus, mais Jésus n'était pas là. Jésus était sur la montagne. Alors les disciples vont dire, on va chasser le démon. Et c'est vrai que les disciples avaient reçu l'ordre, avaient reçu même le pouvoir, à deux reprises même. On voit dans Marc, hein, où il est dit, il établit les 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Dans Marc 3 et dans Marc 6 aussi. Hein, il commença à les envoyer deux par deux, leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Mais le problème, ils n'ont pas réussi. Le démon est resté, l'enfant n'est pas guéri. Pas évident. Premier échec, on pourrait dire, de ses disciples. C'est la première fois, d'ailleurs, dans les évangiles, qu'on voit que l'impuissance des disciples. Et il y a eu toute une discussion avec les scribes, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, juste en ce moment-là, Jésus descend de la montagne, et là, qu'est-ce qui se passe ? Jésus, il commence à se dire, qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça se fait qu'il y a plein de monde comme ça ? Qu'est-ce qu'ils discutent ? De quoi discutez-vous ? Et le père arrive et il explique. Il dit, voilà, j'ai amené mon fils qui est possédé, et je l'ai amené à tes disciples. Je pensais l'amener vers toi, mais voilà, tu n'étais pas là, donc je l'ai amené à vos disciples. Et les disciples n'ont rien pu faire. Et là, Jésus dit, race incrédule, jusqu'à quand je vous supporterai? Race incrédule. Jésus qui dit ça à ses disciples. Vous vous rendez compte? Race incrédule. Vous savez, l'incrédulité, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. C'est quelque chose qui l'offense. C'est quelque chose qui l'afflige. C'est quelque chose qui l'attriste. Parce que le problème, c'était pas la puissance, hein, ce n'est pas que le démon soit trop puissant, mais leur foi était trop faible. ça le problème. C'était pas à cause de la puissance du démon, c'était à cause de leur foi qui était trop faible. C'est à cause de votre incrédulité. Et c'est vrai que les disciples n'ont pas compris non plus. Parce qu'ils ont dû avoir des victoires, ils ont dû voir des choses, ils ont vu Jésus à l'œuvre. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont été vers Jésus à un moment donné et ils ont dit, pourquoi on n'est pas arrivé? Pourquoi on n'est pas arrivé? Et Jésus leur dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Et c'est vrai que l'incrédulité, on le remarque bien souvent, cela empêche l'œuvre de Dieu de se manifester. On prend l'exemple du peuple juif qui a été libéré, où Dieu a donné la victoire à ce peuple. Il l'a libéré après les 10 plaies d'Égypte. Il a fait sortir ce peuple. Il a fait traverser la mer Rouge. Vous vous rendez compte, la mer qui s'est ouverte et qui, le peuple. Et à plusieurs reprises, ils ont tenté Dieu. Il y a eu cette incrédulité. Dieu leur a donné du pain. Dieu leur a donné de la viande. Mais il y avait toujours cette incrédulité qui était là. À un moment donné, ils ont envoyé 12 espions pour aller vérifier un petit peu au niveau de la terre promise. Et quand ils sont revenus, ils disent « Ah oui, c'est vrai que c'est un pays qui, où le lait et le miel, ils sont là. Oui, mais attention, ah là, il y a des géants, des hommes qui sont grands. Et nous, on est comme des sauterelles à côté. » Puis il y en a 10 sur les 12 qui disaient « Oh, faut pas qu'on y aille, parce que si on y va, on va périr. » Sauf 2. Caleb et Josué disent « Non, on peut y aller, on va y aller. C'est bon, le Seigneur sera avec nous. » Mais tout le peuple a écouté ces 10. Et ils ont commencé à se lamenter. « Oui, c'est pour nous faire mourir, et ainsi de suite. » Et là, l'incrédulité du peuple s'est manifestée. À un tel point, Dieu a dit, vous n'y monterez pas. Vous resterez 40 ans dans le désert. Vous allez tourner en rond pendant 40 ans. Et tous ceux qui n'auront pas cru vont mourir dans le désert. Ils vont périr dans le désert. Ceux qui rentreront, ce sera vos enfants. Mais aucun de vous ne rentrera. Et tout cela à cause de leur incrédulité. À cause de l'incrédulité. On voit d'autres passages aussi de l'incrédulité. Je pense à un moment donné, il y avait une famine à Samarie. Et Dieu avait envoyé Élisée en disant, écoute, il y aura à manger demain. Et puis l'officier qui était à côté du roi, il dit, mais attends, même s'il y avait des fenêtres au ciel, Dieu ne donnera même pas du blé, c'est pas possible. Et Élisée lui dit, écoute, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est ce qui s'est passé. Il a vu le miracle. Il n'en a pas mangé, il en est mort. Vous voyez combien l'incrédulité est quelque chose de grave. On voit aussi, à un moment donné, Jésus, vous savez, il a été élevé à Nazareth. Et à Nazareth, bon, ils l'ont connu, bien sûr, ils l'ont vu grandir. Et puis, bon, bien souvent, qu'est-ce qui nous pousse bien à l'incrédulité? Bien souvent, c'est notre raisonnement. Oui, il était avec nous, il a joué avec nos enfants, et puis il a grandi, et puis il était avec son père, charpentier, mais non. Et qu'est-ce qu'il est dit à Nazareth? Il est dit dans Matthieu 13,58, « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » À cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Donc vous voyez combien l'incrédulité est quelque chose qui est un obstacle. Un obstacle à l'œuvre de Dieu. Et peut être, bien sûr, Dieu peut répondre dans sa grâce. Il y a des exemples. On voit cette église qui a prié dans les Actes, qui a prié pour la libération de Pierre. Et Dieu a répondu, bien que quand il y a eu la délivrance, « Oh, mais non, c'est pas Pierre, mais c'est pas possible, c'est un fantôme. » Hein? Il y avait les ossements. Mais hélas, bien souvent, en grande partie à cause de notre incrédulité, que nous recevons si peu du Seigneur et que nous voyons si peu Dieu à l'œuvre. Bien souvent, c'est à cause de notre manque de foi. Parce que nous savons que la foi lui est agréable. C'est agréable à Dieu quand nous croyons. Parce qu'il est dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est agréable à Dieu de la foi. Quand nous croyons dans ses promesses, quand nous croyons à sa grandeur, quand nous croyons à sa personne, combien c'est agréable à Dieu la foi. Mais combien l'incrédulité, combien cela lui fait mal, combien ça l'offense. C'est vrai qu'on peut passer par toutes sortes d'épreuves. Je pense à Job. Job, c'était un homme de Dieu qui est passé par toutes sortes d'épreuves. Il a perdu une bonne partie de sa famille, tous ses enfants, perdu tout son cheptel, tout, jusqu'à être malade. Et il se posait des questions. Il y avait de quoi de se poser des questions. En plus, il y avait trois amis, entre guillemets, qui étaient là pour le consoler, mais ils l'ont enfoncé plus que de le consoler. Et il se posait des questions. Et Dieu a répondu dans sa grâce. Et il a dit une chose. Voilà la confession de Job. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc là, face à cette incrédulité, parce que le Seigneur dit, en fin de compte, de croire. On va voir aussi que l'incrédulité n'était pas simplement dans les disciples, mais elle était aussi dans ce père de famille. Quoique, peut-être qu'au départ, il y avait une certaine foi, parce que il est quand même venu vers les disciples dans le but que l'enfant soit guéri. Et face à l'échec, vous savez, des fois, face à un échec, au lieu que la foi grandissent, elle aurait tendance à diminuer. En plus, quand Jésus est arrivé, celui qui était possédé est parti dans tous ses états, hein, et ce n'est pas la première fois quand Jésus arrive et qu'il y a quelqu'un de possédé, il part dans tous ses états, il va dans tous les sens. On voit cela déjà dans Marc 1, ou quand Jésus est rentré dans une synagogue, et là, il y avait quelqu'un qui était possédé, et bien que ça faisait peut-être des années qu'il allait dans cette synagogue, personne n'avait vu qu'il était possédé, mais quand Jésus est venu, le démon s'est dévoilé, parce que Jésus est la lumière du monde. Et là, c'est vrai que face à ça, le Père, il peut douter, hein. Et Jésus commence à lui poser des questions. Il dit, ben écoute, ça fait combien de temps que ça lui arrive? Depuis son enfance. Et l'esprit le jette dans l'eau, dans le feu, pour le faire périr. Et puis le Père lui dit, si tu peux. Si tu peux, si tu peux, quelque chose, vient à notre secours et aie compassion de nous. Si tu peux. C'est sûr que par rapport à ce lépreux qui était venu vers Jésus, qui lui avait dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous voyez la différence? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme, quand il est venu vers Jésus, savait qu'il avait le pouvoir de le guérir. Mais il ne savait pas si c'était dans sa volonté. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas toujours sa volonté. Mais la foi doit être là. Nous savons que Dieu est tout puissant. Il peut faire toutes choses. Lui, le créateur du ciel et de la terre. Lui qui est tout-puissant. Et je crois qu'il faut jamais oublier cela. Il est le tout-puissant. Il peut faire des choses incroyables. Des choses qui même sont relatées dans la Bible, qui les libéraux disent non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors ils essaient de trouver une explication parce qu'ils disent non, mais c'est pas possible que un Jonas se retrouve dans un poisson, c'est pas possible que les trois personnes soient dans la fournaise sans être brûlées, c'est pas possible que la mer Rouge soit ouverte, c'est pas possible que pendant 40 ans ils ont été nourris dans le désert, c'est pas possible que le soleil s'est arrêté, c'est pas possible. Ah voilà, ça c'est l'incrédulité, ça c'est ceux qui raisonnent. Mais nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est capable de faire tout cela. Et nous le croyons, c'est écrit. Dieu l'a fait et peut le faire encore. Rien n'est impossible à lui. Mais c'est vrai que nous ne savons pas toujours sa volonté. On reviendra tout à l'heure. Mais ce lépreux avait raison. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est une bonne attitude. Il avait cette attitude de foi. D'ailleurs, c'est très intéressant. Bien souvent, Jésus, quand il a guéri des malades, il dit qu'il soit fait selon votre foi. Et tous ceux qui avaient la foi étaient guéris. Parce que mettez la foi en Jésus-Christ. Si tu le veux, tu peux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Job a reconnu, tu peux. Mais c'est vrai que l'incrédulité est là. Et dans Matthieu 17, dans un parallèle où les disciples lui ont posé mais la question, mais pourquoi ? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est pas beaucoup un grain de sénévé, c'est tout petit, c'est la plus petite des semences, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. C'est écrit, c'est Jésus qui le dit. D'ailleurs, très intéressant, ce verset a servi une fois à une église américaine. Ils avaient fait construire une grande église et puis ils ont eu des problèmes avec l'administration. Ils ont dit, écoutez, votre parking, il faut un grand parking derrière. Mais c'est pas possible, il y a une montagne. Et du coup, le pasteur a réuni les personnes en disant, ben voyez, nous avons ce problème, mais nous allons nous appuyer sur ce verset-là et nous allons prier pour que Dieu intervienne. Et ils ont fait une réunion de prière. Et le lendemain, on reçoit un coup de téléphone d'un grand entrepreneur qui dit, écoutez, on a des problèmes. On a tout un endroit à assécher, il n'y a que de la vase. Et nous avons vu que la terre qui est derrière chez vous, là, cette montagne qui est derrière chez vous, elle nous plairait bien parce que ça correspondrait bien à notre... pour remblayer tout cela, toute cette mare de vase. Mais oui, mais combien ça va nous coûter ? Rien du tout. On vient vous prendre la terre et on vous fait même votre parking. Ils ont eu rien à payer. Dieu est puissant. Il peut se servir des hommes pour cela. Mais vous savez, il y a des montagnes. Mais nous avons aussi des montagnes de difficultés, toutes sortes de choses qui sont là. Pas forcément des montagnes physiques, mais des montagnes de difficultés qui peuvent être là. Et le Seigneur nous dit, voilà, mets ma confiance. Un grain de sénévé, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas beaucoup de foi qu'il faut. Mais notre petite foi en un grand Dieu. C'est ça la différence. Parce que nous mettons notre confiance dans un grand Dieu. Le Dieu tout-puissant. Donc, Jésus va reprendre le Père et lui dit, mais si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parce que nous avons affaire à un Dieu de l'impossible. Bien que Napoléon a dit que impossible n'est pas français, bon, il s'est bien trompé parce que le mot impossible est bien français. Mais pour Dieu, non. Quand l'ange est venu vers Marie et lui a dit, tu vas enfanter un fils, Il dit, mais comment puisse... Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Et nous savons, vous croyez que rien n'est impossible à Dieu. Et je crois qu'il faut partir de cette base-là. Est-ce que vous croyez que rien n'est impossible à Dieu? Rien. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et là, le Père dit, je crois. Mais il ne s'arrête pas là. Mais viens au secours de mon incrédulité. Et bien souvent, c'est peut-être bien souvent notre prière aussi. Et je crois qu'il faut être honnête avec Dieu. Je crois, mais... Et l'incrédulité qui est là, qui nous tient. Et je crois qu'il faut le confesser. Oui, pardon Seigneur, pour mon incrédulité, parce que mon incrédulité t'afflige. Mon incrédulité t'attriste. Mon incrédulité te fait mal. Mais Seigneur, je veux croire. Je crois que tout est possible. Rien n'est impossible à toi. C'est vrai que nous ne savons pas toujours sa volonté. Mais je crois que tu peux, si tu le veux. C'est important. Faut pas, bien souvent, on dit si tu le veux un peu pour se cacher, hein, notre incrédulité. Non, faut, si tu crois, je crois, oui, vraiment. Je crois. Tu peux. Rien n'est impossible à toi. Et nous avons vu que dans ce passage, la suite nous montre que Jésus a délivré, a donné la victoire. Il a ordonné à ce démon en disant « Sors !» Et n'entre plus dans cette heure. Et nous savons que Jésus a ce pouvoir parce qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous savons aussi qu'il est dit qu'il a triomphé d'elle à la croix. Et même, nous n'avons pas à avoir peur non plus, nous, de Satan. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur de Satan. Non ? Parce que qu'est-ce que nous dit la Bible ? Elle nous dit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Ah, ça, c'est l'attitude qu'il nous faut. Cette attitude de soumission à Dieu. Bien sûr, si je ne me soumets pas à Dieu, je peux avoir peur de Satan. Parce que je suis en danger. Si je suis dans la rébellion, si je suis dans le péché, je peux être en danger. Mais si je suis dans une soumission, je n'ai pas à avoir peur, parce que je suis sous sa protection. Soumettez-vous à Dieu, donc à Dieu, résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il fuira loin de vous. Et c'est le diable qui s'enfuit. Et il y a d'autres passages, il y a 1 Pierre 5, 8 et 9, il dit « Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévora, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances s'imposent à vos frères dans le monde. » Il nous parle de résister avec une foi ferme. Et il y a ce beau passage de 1 Jean 4, 4 qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Voilà, parce que Christ est en nous, et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc nous n'avons pas à craindre cela. Donc, croire que Dieu est le Tout-Puissant, qui peut faire tout. Il peut même faire que la montagne soit jetée dans la mer. Il en est impossible à lui. Même nos difficultés être jetées dans la mer. Et Jésus rajoute aussi quelque chose. Il dit, ces sortes de démons sortent par la prière. Comment ça se fait? Pourquoi cela? Alors, on ne sait pas exactement comment on fait les disciples. Ils ont dû peut-être, vous savez, des fois, quand on est habitué à des victoires dans le passé, on essaie par nous-mêmes de le faire, sans s'appuyer sur le Seigneur. Aussi. Et la prière, qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est, en fin de compte, quand je m'adresse à Dieu, c'est parce que je suis impuissant. C'est que je ne peux rien faire. Si j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de son intervention, J'ai besoin de ta dépendance. Voilà. C'est ça la prière. C'est de dire, Seigneur, moi j'y arrive pas. Moi je suis au bout du rouleau. Moi je voilà, la prière c'est... Je viens à Dieu pour justement pour que ce soit Dieu qui intervienne. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. C'est vivre dans cette dépendance de Dieu, dans cette communion. Vous savez, c'est important, cela. Je pense que une des choses qui fait bien souvent défaut, c'est ce manque de communion avec Dieu. L'importance de cette communion avec Dieu. Et cette communion, nous l'avons. Parce qu'il est dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes dans la communion avec le Seigneur. Bien souvent, ce qui nous empêche cette communion avec Dieu, c'est notre péché, c'est notre incrédulité, c'est aussi... Il y a tellement de choses dans le monde. Il y a tellement de... On est tellement préoccupé par toutes sortes de choses. On est dans un monde où tout va vite. Et bien souvent, notre communion, elle est si petite. Mais le Seigneur nous demande, voilà, cette communion avec lui. C'est ces moments de prière avec lui. Cette dépendance de lui. Et il y a des belles promesses. Dans Jean 15, 7, il est marqué, « Si vous demeurez en moi, » voilà, c'est cette communion avec Dieu. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ça veut dire, comme je serai en communion avec Dieu, que je connaîtrai sa parole, je saurai ce qu'il faut lui demander, parce que je vais connaître sa volonté. Et je peux le demander et il donnera. Et un autre passage, 1 Jean 5, 14, 15, il est dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. C'est vrai. Toute chose demandée selon la volonté de Dieu, il y a exaucement. Toutes les prières faites selon la volonté de Dieu, il y a exaucement. C'est sûr. Il n'y a pas de doute à avoir. Toute prière faite selon la volonté de Dieu, Dieu exauce. Donc, c'est important cette dépendance de Dieu. C'est important d'apprendre à connaître la volonté de Dieu. Je crois à tout son pouvoir. D'ailleurs, Jésus, il a dit à ses disciples avant de remonter, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir, tout. Rien n'est impossible à lui. Rien. Il peut encore ouvrir la mer rouge s'il le veut. Rien n'est impossible. Nous avons le droit, nous avons un Dieu tout puissant. Bien sûr, on ne va pas le faire pour dire, tiens, on va faire une expérience. Non, ce n'est pas pour la gloriole. Mais si c'est utile, et si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu, rien n'est impossible à Dieu de le faire. Je le crois. Et nous devons le croire, parce que rien n'est impossible à lui. Alors, c'est sûr que face à cela, on peut se dire, on peut faire cette prière comme ce Père. Ah oui, je crois, Seigneur, mais augmente ma foi. Parce que elle est petite et elle n'est même pas la moitié d'un grain de sénévé. Hein. Même pas. Elle est. Pourtant, c'est petit un grain de sénévé, mais. Et je finirai avec Hébreux chapitre 12. En sachant que juste un petit peu avant, Hébreux 11, il nous parle de quoi? Hébreux 11, il nous parle de tous les hommes qui ont vécu par la foi. On pourrait dire que c'est le musée Grévin des hommes de la foi. Regardez le chapitre 11 des Hébreux, il nous parle de tous ces hommes par la foi. Ils ont eu des victoires, mais il y en a qui sont morts dans la foi aussi. Ils n'ont pas vu de délivrance, mais ils sont morts dans la foi malgré tout. Et il faut aussi avoir la foi même pour mourir pour le Seigneur. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils étaient dans l'incrédulité, non? C'est bien marqué. Il y en a qui ont été sciés, il y en a qui ont été mis en prison à cause de leur foi. Hébreux 12, versets 1 et 2, nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. » Ah, le fardeau qui sont là, Et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est vrai, les fardeaux et les péchés nous enveloppent si facilement. Si on ne veille pas à cela, il y a plein de choses qui viennent sur nous. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi. Ah, ou dans d'autres versions, c'est marqué qu'il est l'auteur de la foi. Vous voyez, moi, je ne peux pas fabriquer la foi. C'est Christ qui la suscite, c'est lui qui est l'auteur de la foi. Et l'amène à la perfection. C'est lui aussi. Donc, combien on peut se reposer sur lui? En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du dos du trône de Dieu. Donc, regardons à lui en disant, Seigneur, c'est de toi que je veux vivre, dépendre de toi, en sachant, Seigneur, que tout est possible, rien n'est impossible à toi. Et je veux vivre dans ta volonté, je veux vivre dans cette communion avec toi. Et confessons aussi notre incrédulité. Prions. Oh oui, Père, c'est vrai que ce Père qui était incrédule, quand tu l'as repris, il a dit « Oui, je crois, mais viens au secours de notre incrédulité. » Et Seigneur, pardon. Pardon, bien souvent, cette incrédulité qui est là, qui te fait obstacle, qui empêche bien souvent de donner des délivrances, de bénir. Pardon, Seigneur, à bien souvent, nous croyons que ta main est trop courte et ton oreille trop dure. Et pourtant, non. Tu es le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ce passage d'Hébreux qui dit que tu es Jésus et l'auteur de la foi et qu'il l'amène à la perfection. Et Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous voulons apprendre de toi. Nous voulons nous laisser enseigner de toi et recevoir de toi cette foi qui nous manque bien souvent. Ô Père, je te prie pour chacun, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.